train des passantes et des passants l'hiver. Ainsi vont les si et les mais, pourtant ainsi va la vie comme un invité mystère.
Irène Frankel, bonjour, bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie. Aujourd'hui, mon invité est Julien Roumagnac. Bonjour Julien.
Bonjour Irène.
Julien, vous êtes né le 23 mars 1985 à Toulouse, vous avez un frère, vous avez grandi à Gratintours, vous avez un BEP dans l'aménagement du territoire et paysagisme. On va faire un petit topo concernant votre début de vie professionnelle, justement. Vous avez aidé votre papa à la boucherie familiale jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Puis, à l'âge de 19 ans, vous rentrez au Théo 13 en tant que joueur semi-professionnel. Vous y restez jusqu'à l'âge de 23 ans. D'ailleurs, en parallèle, vous travaillez dans une mairie, justement, dans les espaces verts. Puis, vous partez dans l'immobilier où vous travaillez pendant 3 ans. Assez de temps pour mettre suffisamment d'argent de côté pour pouvoir acheter ce qui est devenu la Rosa Negra. Et après, vous achetez un établissement bien connu des Toulousains, le Badgio. Mais avant de revenir à ce qui est aujourd'hui votre quotidien, j'aimerais savoir, Julien, quel petit garçon étiez-vous ?
Ma mère dirait colérique. Je dirais, comment dire, quelqu'un qui n'aimait pas du tout la hiérarchie déjà dès le départ de ma vie. Et plus un professeur me disait « ne fais pas ça », plus je faisais le contraire. Donc c'était particulièrement énervant pour eux.
Difficile pour vos parents aussi d'ailleurs.
Je revois des professeurs encore qui viennent justement déjeuner et qui me disent « bon ben, on pensait pas que tu allais finir comme ça, on pensait que tu allais mal finir, mais non, ça c'est... » Au final j'ai gardé de très bons contacts avec eux, très très bons contacts avec eux.
Qu'est-ce que c'est ? C'est une difficulté avec l'autorité ?
Grosse difficulté avec l'autorité, ouais. J'ai toujours foncé à ma manière. La tête baissée, pas forcément tout le temps bien, parce que j'ai connu quelques petits échecs, mais au final, tout s'est très bien terminé. Allez, on va dire ça.
Vous avez un frère, vous êtes l'aîné ?
Non, c'est lui l'aîné, il a quasiment 7 ans de plus.
Donc c'est deux enfants uniques.
C'est deux enfants uniques, exactement. Lui, c'est lui qui me mettait un peu sur le museau quand j'étais petit, qui me redressait dans le droit chemin. Mais aujourd'hui, on s'entend très, très, très bien. On fonctionne, que ce soit dans la vie professionnelle, parce qu'on travaille ensemble. Justement, je fais travailler par rapport à Il est vigneron, donc je mets ses vins en avant sur mon restaurant. Et lui fait de même. Il amène quelques clients à lui chez moi, déjeuner ou dîner.
Alors, on va développer quand même ce parcours de vie et cette petite enfance, mais je voudrais déjà mettre l'accent sur ce que vous venez d'évoquer par rapport à votre frère qui est vigneron, vous qui êtes restaurateur, qui avez joué au rugby, votre papa qui était boucher, je ne sais pas s'il l'est encore.
Il était.
On est en train de parler de sacrées valeurs de la terre, du rugby, de l'entraide, justement, vous parlez de la famille, de faire travailler, là, on évoque de sacrées valeurs déjà chez vous.
Disons que le dimanche midi, à un repas, on ne s'ennuyait pas, autant à table qu'à l'apéritif. On a toujours su partager de belles tables, inviter beaucoup de monde. On appelait chez mes parents la maison du bonheur pendant quelques temps parce qu'on s'y retrouvait. On appelait 2-3 potes à 11h et à midi, il y avait quasiment 20 personnes déjà. Donc c'était
la maison du bon Dieu.
Exactement, la maison du bon Dieu. Donc c'était top. C'est une belle époque, pleine de valeurs qui m'ont été apportées dès mon plus jeune âge.
Votre maman travaillait ?
Ma maman travaillait, ma mère a donné un énorme coup de main à mon père, puisqu'elle a une formation de crémière à la base. Mon père, ayant une boucherie charcuterie, ils ont réussi à développer une partie crèmerie accolée justement à des rayons frais. Et elle a pu développer justement toute cette partie crèmerie. Et j'ai baigné même un petit peu dans le fromage, on va dire.
Alors j'imagine que, on l'a dit en tout début d'émission, vous avez quand même aidé votre papa à la boucherie pendant quelques années à votre...
Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est lui qui m'a aidé.
Oui, mais je suppose qu'il l'a fait en pensant que vous prendriez la suite, j'imagine.
Pas du tout, parce qu'il nous a toujours défendu de prendre la suite. Parce que c'est un métier particulier. Il partait le matin à 5h du matin, rentrait à 22h. parce qu'il était chef d'entreprise, donc les horaires ne se terminaient pas à la fin du, à la fermeture du magasin. Donc c'était quand même particulier. Bon, au final, je fais au tender aujourd'hui en étant restaurateur, mais il m'a toujours défendu de prendre la relève. Il m'a toujours défendu. C'est particulier, mais aujourd'hui, ni mon frère ni moi avons suivi le cursus en boucherie. Bon.
Alors, vous dites, j'ai un frère qui a 7 ans de plus que moi. Vous avez commencé en premier à me dire, je pense que ma mère dirait que j'étais un enfant colérique. Diriez-vous, vous avez été un enfant gâté ?
Pas du tout, parce que il a fallu que j'aille gagner ma pomme tout seul. Je partais lui filer un coup de main dans les laboratoires de boucherie pour aller gagner ce qui était à l'époque 5 francs. Donc c'était 8 heures de boulot pour 5 ou 10 francs. Il m'a envoyé faire du maïs.
Il vous a appris la valeur du travail.
Exactement.
Et de l'argent.
Exactement. Je sais aujourd'hui ce qu'est un euro aujourd'hui transformé à l'époque en francs. C'est particulier, mais aujourd'hui, ça m'a apporté beaucoup de valeur, énormément, énormément. Je flambe pas, j'ai jamais flambé.
Comment vous étiez à l'école ? D'abord, vous aimiez l'école ?
Horreur.
Ah, ça a été une souffrance pour vous ?
C'était une souffrance. J'étais plus du côté du fond de la classe que devant.
Oui, on est bien à côté du radiateur, il fait chaud.
On était très bien. J'avais la petite anecdote, j'avais un professeur de maths qui s'était résigné, avec qui je m'entendais très 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 bien, parce qu'il avait des valeurs de rugby, qu'il savait que j'étais dedans. Il me demandait tous les lundis matin d'acheter l'équipe pour lui donner et qu'on la lisait ensemble au final. Donc il s'était résigné au fait que j'étais au fond de la classe pour lire l'équipe.
Tout simplement. Bon, enfin, s'il avait ce comportement, c'est qu'il n'était pas foncièrement inquiet pour vous quand même.
Il n'était pas inquiet, j'avais l'impression qu'il avait détecté.
Il avait détecté,
voilà, peut-être, très certainement.
Oui, parce que vous êtes quand même un vrai bosseur, et ça on le verra tout au long de l'émission. Vous dites qu'il savait que j'étais dans le rugby, mais vous l'avez commencé à quel âge, le rugby ?
Le rugby, je l'ai commencé à 9 ans.
Ah oui.
Dans un tout petit club de Grattentour, justement.
Votre demande ?
Sur ma demande. Mon frère est parti 6 mois avant dans le rugby, et c'est vrai que de suite, en voyant jouer. Bon, c'était du rugby à 13, c'est particulier, c'est pas très connu. C'est pas très connu dans la région, c'est plus connu du côté vraiment du sud, du côté de Perpignan, mais on essaie de développer ces petits clubs, ce petit club qui a plus de 25 ans et qui arrive à survivre malgré des ennuis financiers comme peut connaître des tout petits clubs. Donc on a permis à ce club, justement, avec un gros groupe à l'époque, de finir finaliste très régulièrement du championnat de France, des Coupes de France. Et tant qu'on parle de rugby à 13, ça me fait penser à une petite Coupe de France que j'ai gagnée il y a une dizaine d'années, dans lequel jouait un joueur un ami à moi que j'ai perdu il y a 2 jours, voilà, et qui c'était la petite pensée pour lui. Il a été champion avec nous, et c'était le petit clin d'œil que je voulais lui faire.
Oui, on peut peut-être donner son nom pour lui rendre
c'est
hommage.
Fabien Basso, qui était un petit jeune et qui était monté avec nous dans le groupe des seniors. Et qui au final a mal fini comme nous, qui s'est résigné au comptoir à chanter des chansons paillardes avec nous, et qui s'est complètement intégré dans le paysage rugby de Grattentour.
Combien de temps vous êtes resté dans ce club ?
Je suis resté dans ce club 15 ans. Oui, 15 ans. 15 ans, ensuite passage par une année au rugby à 15, juste à côté, à la vallée du Giroux. Et revenu de suite et quasiment un an après à 13 ans, puis détecté pour remonter au Toulouse Olympique 13.
Oui, en semi-pro, donc, comme on a dit. Ça reste, j'imagine, 15 ans dans un club, ça reste votre club de cœur.
Ça reste le club de cœur, ça le restera toujours. Et j'ai malheureusement pas ce temps libre pour m'y rendre régulièrement et aller les voir jouer. Et boire une bière avec eux, tout simplement.
Vos parents habitent toujours là-bas ?
Toujours, toujours, toujours. Petit village d'Héric-du-Ctible gaulois, perché sur les collines.
D'accord. Donc vous faites un début de scolarité à Grattentour ?
Oui.
Jusqu'au CM2, j'imagine ?
Jusqu'au CM2, non. Je m'en pars au collège aussi, parce qu'il y a un collège à Grattentour. Je fais l'inauguration du collège de Grattentour. Jusqu'en seconde. Non, c'est quoi ? C'est la quatrième au collège. Ouais. Et la troisième, je l'ai terminée dans un lycée agricole à Onde, à côté de Grenade.
D'accord. Ce même lycée agricole, vous avez fait un BEP derrière.
Exactement, exactement. J'ai choisi ma branche en quatrième rapidement parce que, étant un petit échec scolaire, il a fallu trouver rapidement une solution professionnelle. Parce que je voulais plus, comme on disait tout à l'heure.
Alors donc franchement, vous aviez cette scolarité qui était plus, comme on l'a dit, une souffrance pour vous. J'imagine que le rugby était votre bouffée d'oxygène. Comment réagissaient vos parents à cet échec scolaire, justement ?
Jamais mal. J'ai des parents qui ont toujours soutenu, qui m'ont tout le temps posé la question « qu'est-ce que tu veux faire ?» Si c'est ça que tu veux faire, on y est en fonce. Donc, mon père, principalement, c'est lui qui a trouvé les rendez-vous au fur et à mesure que je voulais avancer vers une direction ou une autre. C'est lui qui a pris rendez-vous avec l'école agricole. Parce que je voulais, je ne sais pas pourquoi, pendant un petit moment, c'était ma petite passion à moi et j'étais bien. Donc, c'est lui vraiment qui a œuvré à mes côtés. Il ne m'a jamais rien imposé, jamais.
Quel jeune homme vous étiez dans ces années, alors jeune homme mais très jeune homme, dans ces années de collège où on se découvre justement jeune homme, vous étiez timide avec les filles, comment ça se passait ?
Jamais timide avec les filles, ça a été une révélation très, très rapide pour moi. Non, j'étais quelqu'un qui est très discret quand même, très discret, j'ai jamais été sur le devant de la scène, j'ai peut-être un petit peu bagarreur, allez, on va dire, à peine un petit peu bagarreur. Ça m'a coûté quelques heures de colle.
En dehors donc de cette scolarité un peu chaotique et de votre de vos heures dans ce club de rugby de Gratin-Tours, vous avez fait d'autres sports, d'autres choses à côté ?
Oui, donc rugby principalement, mais un peu de ce qu'on en appelle communément le free fight, tout ce qui est combat libre, qui sont interdits alors principalement en France, en Amérique beaucoup moins. C'était pas pour se la raconter, c'était plus par rapport à une assurance personnelle. Vu que je travaille dans un milieu qui est particulier, donc
le milieu de la nuit.
Le milieu de la nuit, qui a l'alcool, les certaines drogues aussi. Donc il y a des réactions à avoir envers certaines personnes. Et c'est vrai que l'assurance de savoir être sûr de soi, vraiment, et sûr de ses gestes, ça nous amène quand même pas mal de sécurité. Donc au final, réussi à développer ma propre assurance, ma propre défense.
Vous en avez fait longtemps ?
J'en ai fait 3 ans, quasiment, oui.
Et ça, c'est quelque chose que vous avez arrêté aussi ?
C'est quelque chose que j'ai arrêté par manque de temps, comme le rugby. Le rugby a été stoppé il y a 4 ans exactement. J'ai voulu reprendre, mais c'est très compliqué.
Alors vous êtes né, on a dit, en 1985, donc vous avez été adolescent au début des années 2000. Qu'est-ce qu'on écoutait quand on était adolescent à l'époque comme musique ?
C'était la dance.
C'était la dance. C'est une musique que vous aimez ?
Non, j'en passe maintenant dans mon bar pour le côté souvenir de la trentaine. Mais non, c'était bon. J'ai toujours baigné dans le latino et dans les chansons espagnoles.
Ce que vous écoutiez chez vous, ça ?
Ouais, énormément, énormément.
Vos parents ?
Mes parents, mes grands-parents m'ont éduqué parce que.
Vous avez des origines ?
J'ai des origines espagnoles. Ma mère est née en Andalousie.
D'accord.
Et est arrivée en France à 16 ans.
D'accord, donc une vraie Andalouse.
Une vraie Andalouse. Mais oui, c'est mes grands-parents qui m'ont élevé en parallèle. Mais quand je dis élevé, c'est un bien grand mot. Mais c'est 80% du temps, mes grands-parents nous ont gardés avec mon frère parce que mes parents, étant artisans, comme je disais tout à l'heure, ils partaient très tôt le matin, rentraient très tard. Et de baigner dans ces chants espagnols tout le temps, parce que j'ai toujours parlé espagnol, c'était la langue maternelle, et je n'ai pu qu'écouter ces vieux flamencos et ces vieilles sévillanes jusqu'à mes 16-17 ans. Ouais.
Est-ce que vous avez appris un instrument de musique ?
Non, jamais. J'ai toujours aimé la guitare sèche, j'en ferai peut-être un jour. Mais
alors ça, un instrument, on peut l'apprendre à tout âge.
Exactement, c'est pour
surtout
ça.
Surtout quand c'est juste pour se faire plaisir.
Non, jamais d'instrument, jamais.
Et le chant, vous avez essayé ?
le chant...
En dehors de la cuisine de votre grand-mère ?
Non. Non. Pas de chant particulier. Si on peut appeler le chant dans un club de rugby à 3h du matin, c'est pas du chant, c'est du yaourt. c'est du brouillon qu'on chantait tous ensemble. Mais après, pas de chant, pas d'instrument. C'est la musique, juste à l'écoute, et ça suffit largement.
Et savoir l'apprécier.
Exactement.
Alors, je suis quand même curieuse d'une chose, c'est que vous dites avoir fait un BEP aménagement du territoire et paysagisme. Comment vous est venue cette idée ? C'est pas commun comme idée de faire un BEP dans cette branche ?
Non, c'est vrai. Proche de la terre, parce que mon père, malgré qu'il travaillait beaucoup, m'a toujours appris, eh ben, c'est très très con, mais à savoir planter des tomates, faire un jardin, aménager tout autour, parce que le cadre de vie ne se fait pas qu'à l'intérieur d'une maison, c'est aussi l'extérieur. Et on avait tellement envie d'apprécier l'extérieur l'été et profiter des apéritifs en dehors de l'intérieur de la maison, qu'il m'a toujours appris à planter, à entretenir énormément. Donc c'est vrai que ce petit grain naturel m'a toujours plu.
Alors, ça vous, d'abord, j'imagine que vous aimez bien évidemment la nature parce que vous avez été éduqué comme ça. Puis en plus de ça, ce que vous venez de dire, ça a dû aussi développer la patience parce qu'il faut être patient pour regarder tout ça pousser.
Je pense que ça vient de là.
Et le respect de la nature en plus.
Complètement. Je pense que ça vient de là. C'est attendre, savoir semer pour récolter. Et c'est un peu l'histoire de ma vie.
Tout de suite, Julien, je vous propose une première pause musicale et je vous laisse annoncer justement ce premier choix. On va écouter et tout de suite après, vous nous direz pourquoi vous avez eu ce choix.
Avec plaisir.
Donc,
je la présente maintenant.
Oui,
donc,
s'il vous plaît.
La Saeta, c'est une chanson justement qui me fait penser à ma grand-mère, à mes grands-parents qui ont vécu en Andalousie, tout simplement.
On écoute.
Dijo una voz popular que me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
Oh, la saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz, cantar de la tierra mía. Al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú ni cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía, que
es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar. Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi
Ça prend, ouais, c'est un chant de procession, exactement. C'est la procession de Jésus durant ces longues heures de calvaire.
Et ben justement, je vais profiter de cette phrase pour savoir, Julien, si vous avez reçu une éducation religieuse et si vous êtes vous-même aujourd'hui croyant, pratiquant.
Alors. Tout autour de moi, oui, famille espagnole, qui dit famille espagnole aujourd'hui, c'est la religion tient une grosse place. Je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas croyant à un Dieu, je ne suis pas catholique, je veux dire. Je crois à une force, je crois à mon Dieu, tout simplement, mais pas pratiquant sur une certaine religion qui soit catholique ou une autre.
Mais vos parents vous ont fait baptiser, communier ?
Communion, non. Communion, pareil, j'étais au fond de la classe et à un moment donné, on m'a dit de partir.
D'accord. Ça allait avec le reste. Donc baptisé, bon là, j'imagine que vos parents baptisé, vous ont baptisé.
Oui, baptisé, oui.
Et ça s'est arrêté là.
Et ça s'est arrêté là, ouais. Exactement. Exactement, c'est pas quelque chose qui m'attire forcément. On a d'autres sources de recherche que ça.
Si un jour vous vous mariez, vous vous marierez à l'église ?
Je ne pense pas. Je ne pense pas que je me marierai à l'église. Je pense que je me marierai directement en mairie ou mon père me mariera directement.
Votre papa est maire ?
Non, non, mais je peux accepter qu'il soit maire durant 2 heures.
D'accord. Alors, revenons justement à ce moment où vous commencez votre vie d'homme. Vous êtes donc joueur semi-professionnel. Mmh. Ça dure 4 ans ?
Ça dure, oui, 3 ans et demi, un peu moins de 4 ans.
Comment vous vivez ces années-là ? Parce que là, j'imagine que du coup, vous êtes dans votre élément, bon, vous êtes épanoui, c'est ce que vous aimez là.
C'est exceptionnel parce qu'on rentre dans un cadre semi-professionnel qui est aujourd'hui professionnel à Toulouse. On a construit une grosse base, donc c'est comme quand vous jouez dans un tout petit club de rugby et que vous atteignez le Stade Toulousain, c'est un peu le Graal. Et pour moi, c'était à mon âge, à cet âge-là, c'était fabuleux. C'était que des très bons souvenirs, une grosse bande de copains aussi, pas mal d'étrangers. On jouait avec des Australiens, des Néo-Zélandais, donc ça a permis d'apporter plusieurs cultures.
C'était des souvenirs de troisième mi-temps inoubliables.
Gros souvenirs de troisième mi-temps, même si dans un monde semi-pro, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc, je garderai les secrets pour moi.
D'accord, dommage. J'ai essayé, mais bon, ça n'a pas marché. Et alors, qu'est-ce qui se passe au bout de 3 ans et demi ?
Au bout de 3 ans et demi, j'ai alors comment dire, je vais revenir un peu en arrière. Déjà, mon frère me faisait énormément sortir. J'ai eu l'avantage d'avoir un frère qui était aîné, qui m'a fait sortir avec lui très 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 jeune. Donc j'ai côtoyé ce monde-là de la nuit et les bars, les
c'est
restaurants.
C'est un monde qui vous plaisait ?
C'est un monde qui me plaisait déjà. Donc j'ai pas pu réaliser ce rêve rapidement, tout simplement, parce que un manque d'argent énorme. Aujourd'hui, on n'achète pas une affaire comme on veut. Je pars dans l'immobilier chez un sponsor du club de rugby du Théo 13, qui me donne ma chance.
Ah oui, parce que j'allais vous dire, il faut quand même un minimum de bagages pour vendre de l'immobilier. Donc vous avez quand même eu beaucoup de chance.
J'ai eu, je suis allé au culot aussi. J'ai vu que je travaillais, vu que j'avais le rugby qui me faisait un petit peu manger. Je me suis permis de dire à ce patron là qui me prenne à l'essai pendant 3 mois, ça me payait. Donc qu'il me prenne à l'essai, que je fasse mes preuves et qu'au bout de 3 mois on fasse un constat et qu'on se dise si je suis fait pour ça ou non. Et ça, au bout d'un mois, même pas, il a officialisé ma venue. Je suis devenu responsable d'agence.
Mais comment ça se passe? Parce que j'imagine que, enfin, je ne connais rien à l'immobilier, mais je suppose qu'il y a beaucoup de choses à apprendre.
La tête dans les livres. La tête dans les livres, autodidacte, beaucoup de... Internet est fabuleux pour ça, c'est qu'on peut tout y trouver.
Alors ce qui est très amusant, parce que là c'était un choix... Et vous n'avez pas hésité à mettre la tête dans le livre. Ce n'était pas quelque chose d'imposé comme une scolarité
exact.
Que vous refusez. Et là, comme c'était un choix, vous avez su.
C'est complètement différent. C'est le début d'une passion, pareil. C'est, à un moment donné, quand vous vivez pour ça, c'est qu'il y a une étoile qui se passe, il y a une étincelle. Donc j'ai foncé là-dedans, bien sûr. Je me suis mis la tête dans le guidon par rapport justement à toute cette législation et ce droit, mais ce droit autour de l'immobilier, qui m'a permis après d'être recruté dans une autre société immobilière.
Mais tout ça, c'était toujours à Toulouse ?
Toujours à Toulouse. Une grosse société immobilière qui est à Pignon-sur-Rue, qui m'a pris en tant qu'indépendant. C'est moi qui préférais être indépendant, encore une fois, c'est là où ça a démarré. C'est qu'il y a beaucoup de postes dans l'immobilier où on est salarié d'une agence. J'ai préféré être indépendant, avoir la carte de cette agence et d'entretenir mon agenda comme je le souhaitais, qui m'a permis là, par contre, de gagner énormément d'argent.
Donc avec votre propre portefeuille client,
exact.
Vous connaissiez, vous aviez un certain réseau, j'imagine, exactement. Entre vos soirées et le rugby. Mmh. Et donc vous avez développé tout ça, vous avez su tirer avantage de toutes ces choses.
C'est ça. Réussi à mettre pas mal de côté.
Mais vous aviez toujours, donc depuis le début, vous aviez envie d'avoir votre propre affaire ?
Depuis le début, je voulais monter mon affaire. Je voulais monter mon affaire.
Donc c'était l'immobilier pour vous un moyen de gagner rapidement de l'argent.
C'est ça.
Beaucoup d'argent.
C'est ça.
Donc comme vous dites, vous n'êtes pas un flambeur, donc vous avez su tout mettre de côté pour pouvoir acheter votre première affaire.
Exactement, parce qu'aujourd'hui...
Donc un vrai bosseur.
Aujourd'hui, une banque ne prête pas, donc il fallait apporter énormément d'argent de départ, une mise de départ pour pouvoir justement acquérir une affaire, même qu'elle soit petite. La Rosa Negra, c'était tout petit, mais c'était justement c'était l'affaire qu'il me fallait pour démarrer. Il y a maintenant, c'était j'avais 26 ans.
Vous vous rendez compte, c'est tellement jeune, 26 ans.
Oui, j'avais 26 ans. Ouais.
Mais ça, j'imagine que vous avez dû être heureux quand vous avez signé là-bas.
Heureux, alors, c'était particulier parce que c'était délabré. Donc, il a fallu repartir complètement à zéro. C'était un local qui était complètement délabré.
Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Qu'est-ce que vous avez racheté ?
C'était le restaurant Le Caliente à l'époque. C'est le Caliente avec un K.
Oui, ça me parle effectivement.
Une spécialité de foie gras à volonté, si mes souvenirs sont bons, mais qui est malheureusement, parce que je dis malheureusement, j'aime pas les affaires qui tombent, malheureusement, est tombé en liquidation judiciaire. Et bon, ça m'a permis à moi de pouvoir me lancer rapidement sur cette affaire, tout refaire avec des amis jour et nuit. Qui est devenu au fur et à mesure la Rosa Negra. Donc c'était un bar à vin à la base, qui s'est transformé en bar à bringue. Et c'était de très belles années aussi. Je crois que j'ai plus de souvenirs à la Rosa Negra qu'au Café Baggio, quand même, en termes de moments autour avec mes amis.
Pour l'instant,
bien sûr.
Pour l'instant, et puis c'est pas le même âge, et c'est pas la même affaire du tout.
Complètement.
Du tout.
C'est rien à voir, c'était une petite bodega. Donc, qui dit bodega dit.
Bien ça, sûr. Ça part de et alors, temps. Cette petite bodega, qu'est-ce qui vous a donné envie de la revendre?
Tout simplement parce que déjà, il y avait deux points. Le premier point, la Rosa Negra était petite. Donc, ça faisait 80 mètres carrés, ça a été vite saturé. Très, très vite saturé. Beaucoup de problèmes avec le voisinage, justement, qui pensait que le trottoir m'appartenait, mais non. J'y pouvais rien, donc il y avait pas mal de monde. Et deuxième coup, c'est j'ai donc des propriétaires du Baggio à l'époque, qui sont devenus des amis aujourd'hui. Cette affaire m'a toujours plu. Le Café Baggio m'a toujours plu dès le départ. Et j'ai toujours voulu avoir ce tremplin. C'est vrai que la Rosa, c'était le tremplin pour pouvoir accéder à une si belle affaire. Mais pareil, dans un souci de construction, il m'a fallu 4 ans pour remettre aussi de côté pour pouvoir acquérir le Baggio. Donc tout en patience, petit à petit, on a gravi les échelons.
Oui, alors tout en patience, moi je trouve quand même que 4 ans, c'est très rapide. Vous avez mis sur pied vous êtes parti de rien, comme on l'a dit, vous avez fait avec des amis les travaux pour laisser une belle affaire que vous avez bien vendue. En 4 ans, vous vous rendez compte, c'est très peu de temps parce que, on l'a dit, vous avez 33 ans, vous avez une très belle affaire aujourd'hui. Je trouve que c'est formidable la vitesse à laquelle vous allez.
Je fais partie de ces personnes qui, quand je dis c'est tout en patience, je fais partie de ces personnes qui ne supportent pas attendre. Quand je veux quelque chose, je le veux là maintenant. Donc
oui,
c'est vrai
mais
que c'était
vous donnez les moyens pour.
Voilà, pourtant, mais c'était très compliqué d'attendre 4 ans quand même. Attendre 4 ans.
Alors au bout de 4 ans, vous rachetez ce qui était la Romerie.
C'était la Romerie, la Jamaïque. Je vais citer les noms. Il y avait la Jamaïque, la Romerie, le Bahamas Café.
Ah, j'ai pas connu.
Bahamas Café, c'était karaoké.
D'accord.
D'ailleurs, on me demande encore si je fais karaoké.
D'accord. Et donc, là, on va un petit peu développer le Baggio parce que, pour ceux qui me suivent sur Facebook, tout le monde sait que c'est un établissement que j'affectionne particulièrement. En plus, on a déjà fait, vous m'avez reçu très gentiment dans le cadre de mon autre émission, Les Caprices d'Irène, on avait parlé du Baggio. Mais j'aimerais qu'on l'évoque à nouveau. C'est quand même un établissement particulier, puisque, encore une fois, il y a une particularité, il est interdit aux moins de 30 ans.
Ça me vaut des détracteurs, ça me vaut des coups, justement sur Facebook, on parle de Facebook, je prends pas mal de messages disant que c'est pas normal de refuser les moins de 30 ans. Et je me suis mis en tête d'améliorer le cadre de ces plus de 30 ans. Les personnes qui viennent chez moi, quand je dis chez moi, c'est au Café Baggio, sont tranquilles, sont posées à une table avec une bonne bouteille de vin ou une bonne bouteille de champagne. J'avais pas envie d'avoir des étudiants au milieu ou des jeunes qui viennent les emmerder à toute heure de la soirée. Le but, c'était vraiment de créer un établissement comme il se faisait il y a quelques temps, il y a quelques années. Il n'y a plus ces établissements. Les bars pour jeunes, il y en a 50 000 sur Toulouse. Il y a 1500 affaires sur Toulouse. Sur les 1500, il y en a les trois quarts qui sont destinés au moins de 30 ans. Donc je pense qu'il y a assez la place pour tout le monde. Donc j'ai des personnes qui m'en veulent par rapport à ça, parce que malheureusement j'ai refusé à la porte des fistons des amis, mais ça, si on ne garde pas le cap, on se fait manger et je n'avais pas envie, tout simplement.
Alors, question qui peut vous sembler naïve, mais légalement, vous êtes autorisé à refuser quelqu'un à l'entrée qui a moins de 30 ans ?
Non. Je ne suis pas autorisé à faire ça.
Donc ça ne pose pas de problème ?
Ça ne pose aucun problème.
Dans le sens que ça a été imposé dès le départ ?
J'ai deux portiers au Café Baggio qui sont jeudi, vendredi, samedi, non-stop, qui, par contre, ne vous regardent pas de la tête, de la tête aux pieds, qui vous disent bonjour, merci, au revoir, que ce soit pour vous prendre ou pour ne pas vous prendre, et qui vous expliquent tout simplement, même quand ils refusent des personnes, qui vous expliquent le pourquoi. Pourquoi ? Donc, soit il y a trop de monde, soit la personne est dans un état alcoolique un peu avancé. Soit, mais justement, ça ne correspond pas du tout à la clientèle. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu imposer une clientèle à mes portiers et à mon personnel. Je m'y tiens. C'est pas forcément autorisé. Je pense que ce n'est pas légal, mais c'est borderline, mais ça passe, on va dire.
D'accord. Alors, on a dit que c'était un établissement important aujourd'hui. Alors déjà, donnez-nous au moins et le téléphone et l'adresse, pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais enfin, je pense que tout le monde vous connaît.
C'est le 1 boulevard Maréchal Leclerc. C'est le numéro de téléphone 05 61 22 19 62. C'est juste en face du mythique, depuis 26 ans, 27 ans maintenant, le Chevillard, le restaurant Le Chevillard, qui fait partie... Du groupe Carmen, donc c'est très facile à reconnaître. Voilà, c'est un angle de rue, juste à côté du canal. Côté canal, secteur Compense, Caffarelli.
Alors c'est un établissement qui fonctionne très bien, qui est tout le temps plein, on peut le dire. Enfin moi, à chaque fois que je viens, c'est plein.
Tant mieux.
vous avez du monde, vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui.
Oui, du monde en personnel, beaucoup de monde en personnel. Il y a une rotation énorme parce que je fais deux équipes entre le matin et le soir. Donc j'ai l'avantage d'avoir une équipe soudée et qui ont compris où je voulais aller. Je cultive cet esprit un peu à l'américaine, c'est-à-dire que si je mange, tout le monde mange. Donc ils sont très contents de ce qui se passe dans cette entreprise et dans cet établissement.
Oui, donc c'est une aventure humaine avant tout.
C'est une aventure humaine avant tout. J'annonce le chiffre tous les fins de semaine à tous mes salariés.
Et quand vous dites tous vos salariés, combien vous êtes ?
On est 19.
Oui, donc c'est quand même une...
19, oui.
Alors, ce petit garçon qui ne supportait pas ni l'autorité, ni de se voir imposer des choses, qui voulait en faire qu'à sa tête, et qui se retrouve aujourd'hui chef d'entreprise de 19 salariés à 33 ans, bravo, bravo Julien.
Merci.
Qu'est-ce que vous ressentez ?
Un bon parcours. Maintenant, il faut transformer l'essai. Pour revenir au terme du rugby, on peut parcourir beaucoup de mètres sur un terrain. Mais là, aujourd'hui, je suis encore sur la construction, beaucoup de construction, parce qu'une affaire, ça peut très, très, très vite tomber aussi. Il suffit de ne pas s'appliquer, de ne pas s'améliorer et surtout de ne pas écouter les reproches pour s'enfoncer rapidement dans ce type d'affaires. Donc, toujours de la construction, non-stop, tous les matins, c'est réfléchir à pourquoi, comment faire pour attirer encore plus de monde. Et c'est surtout que je suis un anti-internet pour le côté TripAdvisor, par exemple, parce qu'il se dit de tout derrière un clavier. Je suis tout le temps à l'écoute de mes clients et très souvent à la caisse, je discute de savoir ce qui a pu se passer, si ça s'est mal passé, bien passé. Je suis toujours dans l'idée d'apprendre et de prendre beaucoup d'informations pour m'améliorer chaque jour.
Alors, on arrive déjà à la deuxième pause musicale, mais je voudrais quand même vous poser deux questions assez rapidement. D'abord, Votre première affaire, vous l'avez gardée 4 ans. Là, on a fêté il n'y a pas très longtemps les 3 ans du Baggio. Mmh. Est-ce que le Baggio va durer 4 ans pour vous ou est-ce que ça va s'inscrire plus longtemps sur la durée pour Julien ? L'aventure du Baggio, ça c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est que pour connaître l'établissement et pour vous voir vivre et puis pour vous avoir en face de moi aujourd'hui, ressentir toutes les idées bouillonnantes et l'envie de faire et d'avancer, je vous sais chef de famille puisque vous avez une compagne avec qui a 2 enfants, mmh. Donc vous avez quand même une famille à vos côtés. Est-ce que vous avez le temps ? Est-ce que vous avez du temps, assez de temps à consacrer à cette famille et comment ça se passe ? Voilà, mes deux questions.
Le temps manque toujours. Le temps manque toujours. La problématique de ce métier, c'est comme l'a vécu mon père, c'est partir tôt le matin et rentrer tard le soir. je me suis fait une idée de ma vie qui aujourd'hui n'est pas de profiter, justement, qui est plus de construire et de récolter. On aura le temps de profiter dans les prochaines années. Mais aujourd'hui, les projets sont bouillonnent dans ma tête. Ouais.
Et donc, la première des deux questions, parce que vous avez commencé par répondre à la deuxième, je la reformule. Le Badiou va durer pas mal d'années encore pour Julien ?
Le Badiou va durer pas mal d'années pour Julien. De toute façon, ce n'est plus un secret pour beaucoup. Je suis en train de reprendre le Coq d'Or à Jean Jaurès, qui va être un nouveau tremplin encore sur le paysage toulousain, peut-être, on va voir.
Et qui aura un concept particulier du Coq d'Or ?
Qui aura ce côté brasserie du midi, comme aujourd'hui la Devanture l'explique, et on va essayer de construire sur le même thème que le Badiou.
Pour le soir ?
Pour le soir, cet établissement, pour les plus de 30 ans, on va essayer de faire également. Oh.
Merci Julien. On va tout de suite écouter votre deuxième choix musical. Je vous laisse l'annoncer.
Donc c'est une pointe d'accent qui est chantée par une belle chorale qui me tient à cœur. Un cœur d'homme, les mâles au cœur, dont le président est Yannick Moyen, un ami de longue date, et qui se produira justement, on en reparlera tout à l'heure, en première partie de Nadao lors de Feria.
On écoute.
C'est la magie des mots.
Alors c'est une résonance, Julien, particulière pour vous et pour moi aussi, parce que c'est notre groupe toulousain. J'en profite pour les saluer et on vous aime et on est toujours heureux de vous entendre chanter. Merci, vraiment merci pour ce choix. Moi, ça me fait toujours plaisir de les écouter.
Ça prend aux tripes.
Oui. Julien, je vous ai invité aujourd'hui, bon, d'abord parce que ça me fait très plaisir d'échanger avec vous. C'est toujours agréable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà fait une émission ensemble et j'espère qu'on en refera d'ailleurs. Mais il y a une raison particulière aujourd'hui, c'est que vous êtes à l'origine d'un événement dont on entend beaucoup parler actuellement sur les réseaux sociaux et dans la ville. C'est ce qu'on appelle la Feria Tolosa, qui aura lieu donc le 6, 7 et 8 juillet. Et je voulais vous recevoir parce que j'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'est et ce à quoi on doit s'attendre pour cette fête qui est prévue sur ces trois jours sur le parking du Zénith.
Exactement, une grosse aventure humaine. On a, il y a 6 ans, autour mais justement, encore ce comptoir, ce fameux comptoir dans lequel on se retrouve avec des amis. On a émis le souhait de relancer ces fêtes sur Toulouse. Ces fêtes qui ont pris une ampleur considérable, comme vous dites, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a les bus, on a les taxis qui tournent avec les pancartes Feria Tolosa. Il y a une grosse simulation autour de cet événement qui, on est un groupe de 17 personnes au bureau. Chacun dans sa partie, il y en a qui s'occupent du sportif, d'autres du touring, d'autres de la communication.
Tout de suite, je vous arrête parce que vous expliquez au fur et à mesure, mais je vais quand même vous interrompre, Julien, au fur et à mesure de vous entendre, j'ai des questions. Vous êtes 17, ça veut dire que vous vous êtes réunis sous forme d'association, c'est ça ?
C'est une association, on a créé une association, l'association Fiesta Tolosa.
Oui.
Donc en fait, on veut que ça devienne les fêtes de Toulouse. Donc que ce soit les fêtes ou les férias de Toulouse, on veut que ça rayonne.
Ah, que ce soit récurrent.
Que ça soit récurrent, que ça rayonne sous ce nom-là surtout.
Oui.
Régi par l'association Fiesta Tolosa, mais que ça devienne.
Donc vous êtes le président ?
Exactement.
Oui.
Je suis le président. Un bureau de. Je dis souvent de tarés, parce que c'est des heures de réunion.
Vous n'aviez pas encore assez de travail avec,
avec
votre établissement et celui qui arrive, il a fallu c'est trouver ça. Autre chose.
Il n'y a rien à la télé, donc on s'est arrangé comme on pouvait.
D'accord.
et on a posé ça sur un papier, donc il y a vraiment 2 ans. Et depuis 2 ans, on travaille dessus. Donc on avait choisi un lieu qui était le Stade Toulousain à la base, mythique. Ça n'a pas pu se faire là-bas pour des raisons politiques. Aujourd'hui, le parking du Zénith nous a été offert gracieusement grâce à l'aide, justement, je les cite, mais Jean-Jacques Bolzan et Marthe Marty, la maire de quartier, qui ont œuvré à nos côtés et qui ont poussé les portes pour pouvoir avancer. Derrière ça, aujourd'hui, la feria est lancée. Les animations sont quasiment clôturées. On va avoir 3 jours de belles fêtes autour d'un forum d'associations dans lequel on a mis des associations aussi caritatives. De la sécurité routière, de la Croix-Rouge, on met en place du recrutement de militaires, même très certainement. On attend le retour. Le but, c'est d'avoir un joli forum. Il y aura une bodega centrale de 600 mètres carrés avec un restaurant de 200 mètres carrés. Là, c'est le Badjo. Avec le Badjo, on va le gérer à l'aide des bénévoles. Qui vont nous aider justement sur le service. Un gros master de pelote basque. Quand je dis gros, c'est 4 champions du monde. Donc on a toute une délégation du Pays Basque qui vient et la fédération de pelote basque. Donc on aura des grands noms de ce sport qui me tient à cœur, moi, parce que je suis un amoureux aussi du Pays Basque et bien sûr de l'Occitanie en premier, mais de ce Pays Basque qui a tant de valeur. Un village de bodegas. Il y aura 12 bodegas, 12 casetas, comme nous on les appelle, 12 casetas de 150 mètres carrés, des associations, des bars, des restaurants. Il y a un club de rugby aussi de Béziers qui ont pris ces bodegas pour en faire, on l'espère petit à petit, au fur et à mesure des années, un village mythique de casetas comme à Séville. Il y aura du jeu de tambourin, du rugby golf. Le jeu de tambourin, c'est un jeu qui se pratique dans l'Hérault, à Montpellier, qui est un jeu ancestral. On va avoir des arènes au sol, mais des arènes sans gradin. Ça va être des arènes dans lesquelles il va y avoir des jeux de taureaux et de l'équestre, des démonstrations équestres.
Alors, je vous coupe, Julien, excusez-moi, justement. Vous parlez d'arènes, vous parlez de taureaux. On a toujours des détracteurs, vous le savez. Mmh. Je suppose que vous en entendez de toutes les couleurs par rapport à ça tous les jours. Mmh. Quand vous dites qu'il va y avoir des taureaux, est-ce qu'il va y avoir des mises à mort? Est-ce qu'il va y avoir... Comment ça... Qu'est-ce qu'il va y avoir justement avec les taureaux?
Non.
Parce que j'ai tellement entendu, pour vous dire la vérité, quand j'ai fait savoir autour de moi que je vous recevais aujourd'hui justement pour parler de la feria, on m'a dit « Oulala, mais il va nous mettre des mises à mort de taureaux sur le parking du Zénith et nous, on a horreur de ça. » Alors, on va pouvoir dire ce qu'il en est exactement.
Déjà, pas de mise à mort, que du jeu taurin. Du jeu taurin dans lequel il y aura des écarteurs. Les écarteurs, c'est des personnes qui sautent au-dessus des taureaux quand le taureau fonce. Il va y avoir des animations autour du taureau, mais juste pour mettre la race en avant, les bêtes en avant. Je vais faire quand même une petite aparté sur ces anti-corridas. La culture de la corrida, c'est notre culture. Donc il n'y a pas de corrida sur cette feria, mais il faut quand même entendre qu'aujourd'hui, quand vous allez à Dax, à Bayonne, à Nîmes, à Béziers, des deux côtés du pays, les arènes sont pleines. Les arènes sont pleines. Et quand on me parle de détracteurs qui représentent à peu près 0,01% de la population, je pense que notre culture passe au-dessus. Et je suis un fervent défenseur des corridas, même s'il n'y en a pas cette année. Mais c'est notre culture et c'est notre sang. Ça fait partie de notre pointe d'accent. Donc, pas de corrida, vraiment que du jeu taurin.
Comment ça va se passer sur le parking du Zénith? Tout bêtement, on paye un accès pour rentrer, on paye à l'entrée, c'est ça?
Oui, on paye un pass, donc 10 euros un jour, 20 euros trois jours, tout simplement. Ben,
adultes-enfants?
Les enfants de moins de 12 ans ne payeront pas.
D'accord.
On met ce tarif-là, on y revient, c'est une association, on n'est pas là pour faire du bénéfice. On met tous notre cœur à la bonne réalisation, mais il n'y a pas que le cœur qui compte, il y a le financier. Aujourd'hui, tout coûte cher. Vous n'avez qu'à voir les mairies de Bayonne qui ont pris les dispositions pour les férias de Bayonne qui sont maintenant payantes. Vic faisant sac, Condon. Il y a plein de férias qui passent sur les entrées payantes, tout simplement parce que la sécurité, rien que la sécurité, représente un budget énorme, énorme, énormissime sur ce type d'événement. On n'a aucune aide, donc on a la mairie qui nous file un coup de main, on a une aide du conseil départemental, mais ça représente c'est une grosse aide bien sûr, mais c'est minime par rapport à un budget qui est hallucinant. On parle de 500 000 euros, qui est autofinancé, donc beaucoup de prestataires nous font confiance. Nous on a accepté d'être réglés à la fin de la feria. Il y a des membres du bureau.
Vous avez des partenaires?
Des sponsors qui jouent le jeu. Plus étonnant encore, il y a des personnes du bureau qui ont posé de l'argent sur le comptoir pour voir que cette feria sortir de terre. Donc c'est pour ça qu'on parle d'aventure humaine, c'est que c'est fabuleux de voir des personnes qui se regardaient dans les yeux à un moment donné, savoir si cette feria se faisait, parce qu'il nous manquait 30 000 euros. Et ces 30 000 euros, tous les bureaux l'ont posé. Donc c'est quand même c'est fabuleux, c'est particulier. Et c'est pour ça qu'on ne lâchera pas. On lâchera
comme
rien.
Vous dites, c'est une sacrée aventure.
C'est une sacrée aventure humaine, c'est fabuleux. Ouais.
C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire d'homme.
C'est une histoire d'homme, c'est une histoire d'amitié. C'est des longues heures ensemble. On se voit, mais ce soir encore, on va passer 4 heures en réunion. Ça s'accélère, on n'est plus qu'à un mois de l'événement. C'est très prenant, c'est fabuleux. C'est des moments dont on se rappellera.
Donc la bodega, vous dites, elle fait 600 mètres carrés
600 mètres carrés et 120 mètres carrés de restaurant. Ouais.
Donc couvert?
Couvert, hein, entièrement couvert.
Alors je le dis parce qu'on a un sale temps sur Toulouse actuellement. Je ne voudrais pas que le mauvais temps empêche les gens de venir à la feria, puisque vous venez de le dire, donc ça sera sur du couvert.
Toutes les bodegas, même dans le village de Caseta, seront couvertes.
Donc on n'a aucune excuse pour ne pas venir.
Il n'y a pas d'excuse. On veut vraiment que ça s'intègre dans le paysage. Petit aparté sur la date. La date, c'est il n'y a aucune fête sur le sud-ouest en même temps. Sur le sud et sur le sud-ouest, hein, des grandes fêtes. Donc on espère que les fêtes de Toulouse rentrent dans le calendrier des fêtes du sud et du sud-ouest au fur et à mesure des années. Donc c'est un appel à tous les Toulousains, c'est un appel à toute l'Occitanie pour venir participer à cet événement.
Est-ce qu'il y a un code couleur vestimentaire ?
Rose et blanc, c'est les couleurs. Donc il y a là aussi des détracteurs, mais pourquoi vous n'avez pas fait violet ? Violet, c'est pris déjà. Violet, c'est pris. Et je pense que ces fêtes, on veut faire des fêtes, des belles fêtes roses, tout simplement pour aller en adéquation avec Séville. La Toulouse était surnommée la petite Séville il y a quelques années. Et donc, on a voulu faire rejaillir ces couleurs flashy et cette ambiance, on va la créer petit à petit au fur et à mesure des années. On n'est pas rouge, on est rose. C'est pas le Stade Français comme une époque, c'est vraiment notre qualité de vie à nous. Les pierres roses, c'est quand même à Toulouse quelque chose de particulier.
Alors Julien, malheureusement, il nous reste déjà que deux petites minutes d'émission. Je voudrais savoir si vous avez un appel à bénévoles à faire.
Oui, énorme. On a besoin d'un coup de main. On a besoin d'un coup de main des bénévoles. Même si vous passez 2 heures, il y a des bénévoles qui ont prévu de passer juste après le boulot à 17h, 18h pendant l'installation ou la désinstallation.
Comment on fait pour vous contacter si on veut être bénévole ?
Il y a une adresse mail, recrutement.fiestatolosa@gmail.com.
On le redit plus doucement ?
Recrutement au singulier, .fiestatolosa@gmail.com.
D'accord.
Sinon, vous avez le Facebook sur lequel je suis. C'est moi qui reçois directement les messages et qui.
Donc
et qui
sur traite, votre ouais. Facebook privé.
Facebook privé, Facebook Feria Tolosa également.
D'accord. Donc Julien Roumaniac, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous donner l'orthographe de votre nom. C'est Roumagnac. Mm-hmm. Je pense qu'il faut venir tous vous aider parce que là, c'est une histoire pour notre ville. C'est une histoire qui va s'inscrire dans l'histoire de la ville. Et c'est ça qui est important. Et comme vous dites, c'est une aventure humaine.
C'est quand même les 800 ans de la libération de Toulouse cette année.
En plus. Donc beaucoup de manifestations, de la joie.
Beaucoup de bandas, beaucoup de fanfares, de concerts, d'orchestres. J'ai oublié tout à l'heure de préciser qu'il y avait le principal, les orchestres. Il y a Funky Style Brass, qui est une fanfare assez déjantée le vendredi soir. Le samedi soir, les Mal au cœur et Nadao, en deuxième partie. Et le dimanche soir, Sangria gratuite. Donc c'est des groupes mythiques qui sont connus d'une certaine génération peut-être, mais ça touche un petit peu tout le monde, quoi.
Julien, merci d'être venu nous parler de vous et de la Feria.
Merci à
vous. Donc, je le rappelle, la Feria sur le parking du Zénith le 6, 7 et 8 juillet. J'y serai et j'espère qu'on y sera tous avec vous.
Merci à vous.
Julien.
Merci à vous.
Au revoir.
À très bientôt.
Le vent sur les reins des passantes et des passants l'hiver. Ainsi vont les si et les mais pourtant. Ainsi va la vie comme un invité mystère.